Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Jérôme Chouanet, créateur du blog Au-delà de mourir. Je vais vous proposer aujourd'hui la lecture d'une partie d'un ouvrage de Marie Bolduc, Retour à la Terre. Cet ouvrage est publié aux éditions Le Dauphin Blanc, des éditions québécoises, et il a pour sous-titre « Neuf histoires d'incarnation ». Il s'agit en effet de neuf récits qui décrivent le processus d'incarnation d'une âme. Et je vais vous proposer donc un cycle de neuf podcasts au cours desquels nous allons voir le récit chaque mois qui correspond au mois de grossesse, donc de 1 à 9. Et nous allons commencer aujourd'hui donc par le premier récit, pendant le premier mois de grossesse, qui a pour sous-titre « Une quête de l'amour ». Il y avait longtemps, si longtemps il me semble, que je n'avais pas eu le privilège de rencontrer Marie-Josée dans les hautes sphères de l'astral. Au moins 3 années s'étaient écoulées depuis notre dernière conversation, qui concluait mon ouvrage précédent, « La survie de l'âme ». La rédaction de ce livre fut sans doute la plus belle expérience de ma vie. Durant plusieurs semaines, Marie-Josée m'avait accompagné et guidé dans des endroits merveilleux du royaume. Ses précieux renseignements et ses sages enseignements sur la vie de l'âme entre les incarnations avaient assouvi alors ma soif de connaissances sur l'après-vie. Puis des conférences, des rencontres avec des lecteurs et des ateliers m'avaient tenu passablement occupé. Mais bientôt, de nouvelles questions surgirent en moi, d'abord doucement, puis se faisant pressantes comme des interrogations essentielles. Il me semblait ne pas avoir suffisamment abordé le sujet du retour de l'âme dans un corps physique. Marie-Josée m'avait bien transmis certains renseignements sur le sujet, mais je ressentais le besoin d'en savoir plus. Ma motivation était encore plus grande lorsque je percevais les mêmes interrogations chez les lecteurs que je rencontrais. Si je pouvais avoir la chance de suivre une âme en processus d'incarnation, que d'informations précieuses pourrais-je en tirer? L'idée germa et je décidai de formuler ma demande à Marie-Josée. Pouvait-elle me guider vers une âme en préparation pour une nouvelle naissance terrestre? Était-ce permis par le monde divin? La nuit suivante, à peine endormi, je me sentis soulevé et attiré hors de mon corps. Une telle sensation n'a rien de nouveau pour moi. Mes voyages astraux débutent généralement ainsi. Je m'efforçais de demeurer calme afin de ne pas interrompre le processus de sortie. Rapidement, je me retrouvai au plafond de ma chambre, contemplant mon corps endormi et mon mari à ses côtés. Puis un grand silence m'enveloppa et je me sentis aspiré vers le haut. Un tourbillon lumineux sembla me prendre dans son mouvement d'ascension. La lumière et les couleurs tournoyèrent quelques instants puis cessèrent. La sensation de monter disparut. Je regardais autour de moi. Un ciel bleu ravissant et une nature luxuriante m'entouraient. Des oiseaux survolaient les lieux et leurs battements d'ailes semblaient créer une musique douce et légère. Une fois de plus, j'étais au paradis. Puis, sortant de nulle part, Marie-Josée apparut et rendit ainsi cet instant encore plus magique. Elle était vêtue de blanc et arborait un resplendissant sourire. Il émanait d'elle une telle énergie et tant de lumière que pour un moment, je doutais de son identité. « Marie-Josée, est-ce bien toi ?» Avant qu'elle ne prononce un mot, je perçus avec clarté sa réponse en moi. « Mais bien sûr, tante Marie. Tu es si éclatante, si radieuse. Je me souviens de toi comme d'une jeune fille, saine et belle, mais là, tu ressembles à un ange. » Marie-Josée ne put s'empêcher de rire, amusée de ma remarque et de mon étonnement. « Tu vois, tante Marie, » dit-elle en s'approchant, « dès que l'on accepte d'être touché par l'amour de Dieu, une transformation s'opère. Et lorsque tu parviens à laisser toute la place à cet amour, la transformation est radicale. » Nous nous enlaçâmes longuement, savourant la joie de nos retrouvailles. Tes interrogations et ton désir de servir t'ont mené jusqu'à moi, tante Marie. Tu connais donc déjà les questions qui m'envahissent sans cesse. Son sourire confirma mes préoccupations. J'allais donc directement au but. Dis-moi, Marie-Josée, peut-on suivre une âme durant le processus de réincarnation? Est-ce permis par Dieu? Veux-tu me guider comme tu l'as si bien fait déjà? Marie-Josée mit doucement sa main sur mon épaule. Sûrement ressentait-elle l'excitation intérieure qui m'assaillait malgré tous mes efforts pour rester calme. Elle m'invita à m'asseoir sous un arbre magnifique. Une douce brise agitait le feuillage duquel scintillaient de petits éclats de lumière. Tante Marie, depuis notre dernière rencontre, je savais que cette démarche viendrait. Tu n'étais pas prête à ce moment-là à entreprendre une telle tâche. Tu avais eu suffisamment d'informations à transmettre aux gens de la Terre. Avoir approfondi le sujet de la réincarnation t'aurait alors perturbé et épuisé. Tu as accompli chacune de nos missions communes avec brio et zèle, Tante Marie. Et cette nouvelle mission devait venir à son heure. Alors tu acceptes de m'aider à nouveau ? Bien sûr, Tante Marie. Je sais l'utilité et le bien fondé de cette démarche. Et elle se fera sous la bénédiction de Dieu, sois-en assurée. Les paroles de Marie-Josée me comblaient de joie. J'étais impatiente de débuter cette nouvelle expérience. Elle devina facilement ma fébrilité. Il te faudra pourtant être patiente, Tante Marie. Je dois d'abord trouver des âmes qui accepteront de partager avec toi leur expérience de retour à la Terre. Des âmes, as-tu dit ? Demandai-je intrigué. Oui, répondit-elle. Je te propose de rencontrer plusieurs âmes, chacune à un mois différent de la grossesse. Ainsi, tu pourras récolter 9 facettes différentes de la réincarnation. 9 histoires différentes, interrompis-je. 9 raisons différentes de s'incarner ? C'est merveilleux. Tu auras ainsi une vision plus complète de la réincarnation, reprit Marie-Josée avec douceur. Elle fit une pause et me regarda profondément dans les yeux. Tante Marie, te sens-tu prête pour cette tâche qui exigera beaucoup de temps et d'efforts ? Oui, répondis-je sans hésiter. Mon désir de servir et d'aider mes semblables est sincère, tu sais. Je le sais, Tante Marie, je le sais. Je lis si bien dans ton cœur. Malgré tout le travail qui m'attend, je ne suis pas terrifiée. Sous ta guidance, je crois que je peux tout accomplir. Marie-Josée sourit tendrement. Elle prit ma main et termina notre rencontre. Alors qu'il en soit ainsi, dit-elle. Dès que les événements et les circonstances seront appropriés, tu seras interpellé à revenir vers moi. D'ici là, prépare-toi, Tante Marie, et surtout sois reposée. Je t'aime, à bientôt. À peine avait-elle prononcé ces mots que ma conscience chavira. Je perçus tout juste le tourbillon qui me reprit dans son mouvement. Le sommeil me récupéra dans ses filets, et je ne sentis même pas la réintégration de mon corps. Les jours suivants, je fis de mon mieux pour être prête à vivre cette nouvelle expérience. J'espacai mes engagements, pris soin de moi, et repasser dans ma tête toutes les interrogations que j'avais sur la réincarnation. Mais surtout, je remerciais Dieu et Marie-Josée de me permettre de vivre cette expérience. Je me sentais privilégiée et reconnaissante. Je savais que le but ultime et au fond l'unique raison d'être de cette mission était le service à l'humanité. Dès lors, à chaque nuit, je m'endormis dans l'attente de cet appel promis. Malgré l'excitation, je fis preuve de patience et de dignité, sachant bien qu'une nuit prochaine, Marie-Josée m'inviterait à la rejoindre dans l'autre monde. Et je n'eus pas à patienter longtemps. J'étais couché depuis peu, bercé par un doux état de semi-conscience entre le sommeil et l'éveil. Lentement, mes vibrations s'élevèrent et je sortis de mon corps, flottant allègrement près du plafond de la chambre. Puis, poussé par un profond sentiment de liberté, je me laissai porter au-dessus de la région terrestre. Soudain, en quelques secondes, au moins, qu'est-ce que le temps une fois sorti de son corps ? Je fus attiré vers le haut, dans une spirale de lumière. Je savais alors que mon aventure débutait. Je me retrouvai dans une grande prairie, près d'une source d'eau et d'un arbre sous lequel, assise et sereine, m'attendait Marie-Josée, toujours aussi rayonnante. « Tante Marie, es-tu toujours désireuse d'entreprendre cette tâche avec moi ?»« Plus que jamais, lui répondis-je avec enthousiasme. »« Alors qu'il en soit ainsi. » Elle m'invita à m'asseoir auprès d'elle. J'avais l'impression de vivre la continuité de notre dernière rencontre, comme s'il n'y avait eu aucune coupure dans cette séquence intemporelle. Bientôt, nous serons rejointes par une autre âme, Rose Hélène. Auparavant, permets-moi de te parler d'elle, afin que tu aies un aperçu de son histoire d'âme. Est-ce une âme que tu guides vers la réincarnation, demandai-je ? En quelque sorte, oui, mais je ne suis pas la seule à la conseiller et à la guider. Je l'ai principalement assistée durant la phase définitive de son choix d'incarnation. Marie-Josée me parla alors longuement de Rose Hélène. J'appris qu'elle avait connu de nombreuses vies sur la Terre, mais qu'elle y avait vécu peu de bonheur. Ses relations personnelles ne furent jamais faciles, l'amour étant oublié plus souvent qu'autrement. Elle a ainsi accumulé un bagage karmique assez lourd, chacune des vies successives l'enfonçant un peu plus dans l'abîme de négativité qu'elle entretenait. Marie-Josée insista particulièrement sur la dernière vie de Rose Hélène. Elle était alors une artiste qui ne connut jamais le succès ni la reconnaissance qu'elle espérait. Son existence était une suite d'échecs et d'erreurs. Elle fut emprisonnée et a ressenti intensément le jugement porté contre elle. Elle a vécu à peine 50 ans. Son départ fut rapide et précipité. Elle croyait pourtant qu'elle se sortirait de son enfer, mais elle s'y enfonçait toujours un peu plus. Lorsque le destin sonne la fin de la récréation, il ne vous demande pas si vous êtes prêt. Marie-Josée me rappela alors sa propre mort pour bien me faire comprendre à quel point le départ de la Terre peut surprendre l'âme. Avait-elle choisi une telle vie d'épreuves et d'échecs ? Demandai-je intrigué. Marie-Josée hésita puis répondit. Ce n'est pas ainsi que tu dois considérer cette question. Elle n'avait pas choisi délibérément de vivre toutes ces épreuves. Par contre, elle avait opté pour rencontrer certaines situations ou expériences particulières afin de les dépasser. Elle aurait pu le faire sans souffrir. Malheureusement, comme c'est le cas bien souvent pour une âme qui se réincarne, Rose Hélène avait voulu terminer et régler trop de choses à la fois. Les expériences terrestres qui découlèrent de ses choix l'ont finalement dépassée et sa vie est vite devenue un enfer duquel elle n'arrivait plus à sortir. L'avait-on prévenu que ses choix risquaient de la faire sombrer ? Bien sûr, tante Marie, toutes les âmes sont accompagnées et conseillées, n'en doute jamais. Mais alors pourquoi a-t-elle choisi quand même ces expériences ? Parce qu'il existe un droit fondamental pour chaque âme, le libre arbitre. Si les guides peuvent conseiller et proposer, jamais ils ne doivent imposer. Et puis, Rose Hélène est une âme plutôt têtue, ajouta-t-elle en riant. Pour la prochaine incarnation, a-t-elle encore des visées élevées ? Elle n'a pas encore complété le processus de choix d'expérience. Elle est d'ailleurs en quête de ses futurs parents. Disons toutefois qu'elle fait preuve de plus de sagesse et de modération. Elle a compris que l'amour doit être l'orientation principale de sa vie, ce qui lui évitera bien des problèmes. Au début, lorsque son désir de réincarnation est devenu une véritable décision, elle tombait de nouveau dans le piège de tout vouloir régler. Tu sais, tante Marie, les âmes se croient souvent plus fortes qu'elles ne sont en réalité. Mais cette fois, Rose Hélène a démontré plus d'écoute envers les guides qui l'accompagnaient. Cela a modifié ses premières décisions. Alors que Marie-Josée terminait son explication, une silhouette, d'abord floue, se précisa en s'approchant de nous. Un regard à Marie-Josée me permit de comprendre que Rose Hélène venait nous retrouver. Elle s'avança jusqu'à nous et s'assit devant moi, silencieuse. Je décidai d'entamer la conversation. « Bonjour Rose Hélène, je te remercie de bien vouloir partager ton expérience avec moi. »«
Bonjour Marie, je suis heureuse de t'aider, » dit-elle un peu timidement.
Une première question s'imposa d'elle-même, une question que je m'étais posée 100 fois depuis des mois. Pourquoi ? Pourquoi une âme décide-t-elle de revenir sur la Terre en sachant que sa vie ne sera pas toujours facile ? Pour évoluer, je crois, répondit-elle un peu hésitante. J'ai vécu tant de vies qui se ressemblaient, des vies à être ballottées par les tentations multiples. Je m'y abandonnais plus souvent qu'autrement. Je veux maintenant guérir ces vies et les blessures qu'elles m'ont apportées. Mon séjour de ce monde-ci m'a permis de comprendre les possibilités infinies que permet l'évolution vers les sphères plus élevées. Mais mes erreurs passées me retiennent comme des boulets aux pieds. Moi, qui ai vécu l'emprisonnement, je sais à quel point il est doux de se libérer. C'est ce que je souhaite faire, me libérer des lourdes chaînes du passé. De toutes ces vies passées, en est-il une qui t'a marqué particulièrement ?
Celle où j'ai fait la guerre, répondit-elle immédiatement. J'étais un soldat et j'ai tué. Je sais, on dit que c'est pour défendre la patrie. Mais moi, J'ai tué simplement pour tuer. J'étais un officier et j'ai tué dans des situations où je n'avais pas à le faire. Un jour, j'ai réalisé toutes les injustices que j'avais commises. Et à ce moment précis, je fus abattu. Je suis mort sur le champ de bataille, dans cette guerre idiote et mal dirigée. La guerre cause des blessures plus profondes à l'âme qu'au corps. J'ai compris alors que faire la guerre, c'est souvent se battre contre soi-même. Cette compréhension sema en moi les germes de l'amour et du pardon. Pour les vies subséquentes, l'amour et le pardon me motivaient à m'améliorer. Cette fois, je souhaite vivre une vie basée sur l'amour. Je sais dorénavant que c'est la clé qui ouvre les portes des paliers supérieurs du royaume. J'étais ému devant Rosélène qui se livrait à moi avec tant de candeur. Je dois vous quitter maintenant, mais nous nous reverrons lorsque mes choix seront complétés et que le processus d'incarnation sera enclenché, précisa-t-elle. Elle se leva en silence et s'éloigna jusqu'à se fondre avec le paysage. Je fixai longuement le décor magnifique au loin, perdu dans mes pensées. Rosélène m'était apparue si soucieuse, inquiète presque. Marie-Josée capta mes impressions. Une âme dont l'incarnation est imminente est toujours absorbée par son expérience, m'expliqua-t-elle. Rosélène n'était pas vraiment inquiète, comme tu l'as perçue. Disons qu'elle s'interroge, pèse le pour et le contre, questionne et écoute les guides qui l'assistent. Dès qu'elle sera fixée, elle se mettra en quête des parents et des conditions maximales pour favoriser ses choix. Elle vit de l'incertitude et de l'attente. Elle est en période de réflexion. Cela l'accapare entièrement et explique la brièveté de cette première rencontre. Est-elle triste, demandai-je. Quitter un tel endroit pour retourner vivre des expériences terrestres, il me semble que... Tu dois comprendre, m'interrompit Marie-Josée, que même si Rosélène connaissait la sérénité et l'apaisement ici, elle percevait au-delà de cela une paix, un amour et un bonheur qui lui étaient inaccessibles. Elle doit hausser les vibrations de son âme. La vie dans son ensemble est en évolution et l'âme est une partie intégrante de la vie. Est-ce que le processus débutera bientôt ? Marie-Josée sourit tendrement. En fait, rectifia-t-elle, il est déjà commencé. Dès que le désir naît, dès que l'âme accepte d'entrevoir la possibilité d'un retour, alors le processus démarre, subtilement, mais de façon irréversible. Les réflexions s'intensifient, l'attrait pour l'incarnation grandit, et surtout le désir d'évoluer motive l'âme à retourner dans un corps physique. À ce moment-là, des guides se manifestent, selon les interrogations de l'âme, selon ses premiers choix. Elle devient de plus en plus absorbée dans son expérience, vivant une intense intériorisation, sondant son essence même, considérant ses vies passées. Alors tu vois, tout cela peut représenter un délai plus long en temps terrestre que les 9 mois de gestation. Marie-Josée fit une pause pour me permettre de bien assimiler son enseignement. Puis elle reprit. Mais dans le cas de Rosélène, la conception ne tardera pas. Ses choix ont besoin d'être revus, mais ils sont pratiquement complétés. Je demeurai silencieuse, absorbée par les paroles de Marie-Josée. Le temps semblait suspendu. Mais bientôt, une vibration se fit ressentir au niveau de mon plexus. Je savais que le retour à mon corps de chair s'amorçait. Je jetai un regard à Marie-Josée qui me souriait. Son image se brouilla et sa voix, à peine audible, me salua affectueusement. Une sensation de descente vertigineuse m'envahit, le décor s'estompa, la lumière tournoya, et en quelques secondes, je réintégrai mon corps, ma conscience éveillée, sombra aussitôt dans le sommeil du corps. Plusieurs jours s'étaient écoulés dans l'attente d'une nouvelle rencontre. Puis une nuit, un appel irrésistible résonna en moi et m'attira hors de mon corps. Avec une facilité déconcertante, je m'élevai, traversai le plafond de la chambre et le toit de la maison et poursuivis mon ascension. Graduellement, je ressentis une impression de ralentissement. Je débouchais sur une magnifique clairière. Tout près, une cascade émettait un son doux et diffusait une fraîcheur agréable. Son eau me semblait si pure que je crus voir des gouttes de lumière éclabousser tout autour. Le ciel était d'un bleu magistral et de longs fils d'or semblaient le traverser. Une intense sensation d'amour baignait les lieux. Dans mon émerveillement, je n'avais pas remarqué Marie-Josée et Rosélène assises sous les branches d'un arbre majestueux. Je m'avançai vers elle et remarquai du même coup à quel point Rosélène semblait transformée. Elle rayonnait littéralement. L'âme soucieuse et pensive du dernier rendez-vous irradiait maintenant la paix et la confiance. La métamorphose était remarquable. Je les saluai et m'assis à leur côté. Elles m'accueillirent avec beaucoup de tendresse et de joie. Mon attention fut attirée par la lumière discrète qui tournoyait autour de Rosélène, comme si un fin fil d'argent s'enroulait autour d'elle. Visiblement, quelque chose avait changé pour Rosélène. Elle était avec nous, mais je sentais qu'elle n'appartenait plus entièrement à ce monde astral. « Ta perception est juste, » confirma Marie-Josée. « Rosélène partage dorénavant les vibrations des deux mondes. Pour l'instant, elle se sent encore plus près du royaume que de la terre. » Mais cet état s'inversera au fil des mois de gestation de son corps terrestre. « Quand cette transformation s'est-elle opérée ? » demandai-je Rosélène. « Elle a débuté lorsque mes choix furent fixés et elle s'est accentuée à la conception du corps physique. » J'étais excité à l'idée de découvrir ce processus. Des questions se pressaient en moi. J'aurais voulu tout savoir, mais il fallait commencer par le début. « Quels sont tes choix ? Qu'est-ce qui orientera ta future vie ?» Le but de ma vie sera la quête de l'amour. Je veux définitivement apprendre à aimer et je veux également recevoir de l'amour. Si je réussis à garder le cap sur ces objectifs, alors beaucoup de blessures passées guériront. Je tiens aussi à développer ma confiance en moi, la discipline, la sagesse et le discernement. Crois-tu y parvenir ? Je me donne la permission d'y croire, sinon pourquoi reviendrai-je ? J'ai la conviction que mes choix sont justes. J'aborde cette nouvelle existence comme une chance inestimable de donner un véritable coup de barre à mon évolution. Oh, je sais bien que ce ne sera pas facile. J'aurai ma part d'embûches et ma faiblesse envers la dépendance et les passions. Mais d'un autre côté, je n'ai pas demandé la facilité. J'ai lutté durant bien des vies. Je crois en l'effort. Sois assurée, Marie, que je travaillerai fort à réaliser une belle croissance personnelle. Je détournai le regard vers Marie-Josée, une question en tête. Sans que j'aie le temps de la formuler, elle me répondit. Rosélène ne se souviendra pas de tout cela après sa naissance, ni durant sa vie terrestre d'ailleurs. Il lui en restera une impression, une sorte d'appel intérieur à s'orienter vers l'amour et une motivation à évoluer. Ne serait-ce pas plus facile de se souvenir de tout pour réussir son plan de vie ? L'âme doit se donner entièrement à sa nouvelle existence. Les souvenirs de vie passée, de liens anciens et même du monde astral pourraient l'empêcher de le faire. Il serait susceptible de créer des blocages, de faire naître du découragement, des regrets et de susciter l'inertie en certains cas. Et puis, interrompit Rosélène, je ne serai pas seul. Des gens m'attendent et m'aideront sur la terre. Mes guides m'entoureront, bien que mes yeux de chair ne pourront les voir. Et n'oublie pas, Marie, que Dieu a mis de nombreux repères à chacun de nous. Marie-Josée approuva. Cela est très juste, Rosélène. Tu vois, tante Marie, de nombreuses cartes routières de l'âme jalonnent chacune des vies sur Terre. Il s'agit de les découvrir, de les comprendre et de les utiliser. Je comprenais effectivement l'allusion de Marie-Josée au sujet des cartes routières inscrites pour nous dans les astres, dans les mains, dans les chiffres et même dans les événements de la vie. Une pause me permit d'assimiler les réponses de Marie-Josée et de Rosélène. Puis mon intérêt se dirigea vers les futurs parents de Rosélène. Qui étaient-ils ? Comment avaient-ils été choisis ? Le savaient-ils ? Marie-Josée et Rosélène se regardèrent et échangèrent un sourire, percevant mon agitation intérieure. Que de questions, tante Marie, que d'excitation. Je me rendais bien compte que mon état quasi euphorique tranchait avec le calme des lieux et la solennité du moment. J'assistais à un événement incroyable. Comment pouvais-je rester calme ? Je vais répondre du mieux que je le peux, Marie, me rassura Rosélène. D'un sourire, je lui exprimai ma reconnaissance. « Oui, j'ai véritablement choisi les parents de ma future incarnation. »« Pourquoi eux ?» me demandais-tu. « C'est une question difficile à répondre. »« Je les ai vus sur l'écran. »«
Sur l'écran ?» répétai-je étonné.
« L'écran, » intervint Marie-Josée, « est un terme souvent utilisé par les âmes pour désigner l'écran mental sur lequel défilent les images qui les aideront à comprendre ce qu'elles vivent. »« Souviens-toi qu'à la mort, l'âme revoit le film de sa vie sur cet écran. » qui est en fait constitué d'énergie lumineuse condensée. Le même processus est utilisé pour certains préparatifs d'un retour à la Terre, dont le choix des parents. Je me retournai vers Rosélène pour l'inciter à poursuivre, ce qu'elle fit sans attendre, à ma grande joie. Plusieurs couples ont défilé sur l'écran. mais je ne sentais aucune attirance envers eux. Et pourtant, je sais que d'autres âmes ont répondu au désir d'enfanter de ces couples. Moi, je recherchais des qualités et des aptitudes bien précises chez mes futurs parents. Il me fallait une mère aimante, apte à me donner beaucoup d'amour, afin de me plonger dans cet amour que je cherche à explorer. Elle devait aussi être douce et compréhensive, afin de m'accueillir avec mes défauts et mes penchants développés depuis longtemps. Ma mère aura à m'accompagner dans ma libération de la dépendance aux substances. Peut-être succomberai-je aux tentations. Alors, plus que jamais, j'aurai besoin d'une mère remplie d'un amour inconditionnel. Et ton père, demandai-je? Mon père a un caractère semblable au mien. Il est un peu rebelle, autoritaire et sévère. Comme moi, il est enclin au négativisme. Rosélène fit une pause. Je la sentais évasive au sujet de son père. Je me tournai vers Marie-Josée en quête d'explications. Il te faut savoir, tante Marie, que Rosélène et son futur père ont déjà vécu des incarnations durant lesquelles ils étaient le même type de relation que celles qui les vivront sous peu. Il fut déjà son père dans une vie précédente? Exactement, reprit Marie-Josée. Ils avaient alors accumulé des blessures. Un des buts de Rosélène pour la prochaine incarnation sera justement de guérir ses blessures et ainsi réaliser une réconciliation avec son père. Elle sait qu'il y aura confrontation. Son père le sait aussi, mais il n'en est pas conscient actuellement. Il avait espéré, avant de naître, cette période de réconciliation. Tu peux considérer cela comme un rendez-vous qu'il s'était fixé. Mais l'un des deux, son père précisément, ne sait pas si l'autre sera à ce rendez-vous. Aurait-il pu ignorer ce rendez-vous? Demandai-je encore. L'ignorer, non. Le retarder, oui. Tôt ou tard, les liens karmiques mettent inévitablement en relation les êtres qui en sont liés. Je sais, reprit Rosélène, que ce ne sera pas facile avec mon père. Par son attitude et ses attentes envers moi, il pourra provoquer chez moi une sorte de rébellion. Cela créera possiblement les conditions risquant de me plonger dans la dépendance aux drogues. Mon âme est encore imprégnée de cette dépendance. Je serai fragile. Mais alors pourquoi l'avoir choisi si tu te sentais si fragile, m'étonnai-je? Pour en guérir, répondit Rosélène sans hésiter. Marie-Josée m'apporta plus de précision. Ce n'est qu'en y étant confronté de nouveau qu'une âme peut régler une situation quelconque. Dans le cas de Rosélène, elle sera inévitablement confrontée au choix suivant. Fuir de nouveau dans la dépendance aux drogues ou développer une force intérieure suffisante pour lui permettre de régler ce conflit une fois pour toutes. Ce sera le point majeur de sa vie intérieure. J'ai appris ici, reprit Rosélène, que seul l'amour peut régler mon problème. L'amour de soi et des autres. Alors ce sera l'arme de mon combat. Rosélène me semblait bien courageuse et je compris à quel point les âmes sont fondamentalement bonnes, malgré les vies mouvementées ou négatives qu'elles peuvent subir parfois. Je jetai un coup d'œil à Marie-Josée et je compris que notre rencontre allait bientôt se terminer. Aussi me hâtai-je de poser d'autres questions. « Dis-moi, Rosélène, as-tu assisté à ta conception physique ?»« Oui, bien sûr, » répondit-elle dans un large sourire. Il était important pour moi, tant d'un point de vue symbolique qu'énergétique, que cette conception soit sous le sceau de l'amour. Je souhaitais ardemment être conçu dans l'amour. Et c'est ce qui se produisit. La nuit de ma conception, mes parents se sont aimés passionnément, assouvissant leur désir charnel, répondant à leurs pulsions sexuelles, mais aussi en espérant engendrer la vie. Ils étaient donc prêts à être parents. Tout à fait. Ma mère particulièrement était prête depuis longtemps et attendait impatiemment cet instant. À chaque relation, elle était animée du désir d'enfanter. Comment as-tu vécu cette conception? Avec beaucoup de joie, je dois dire, répondit Rosélène, visiblement enchantée de cette conception. J'ai ressenti leur amour et leur passion, j'en étais attiré, littéralement. Puis, un long tunnel sombre mais accueillant s'est ouvert devant moi, comme sortant de nulle part. Une intense poussée m'y précipita et une chaleur m'enveloppa. J'étais dans une bulle, il me semble. J'étais bien. J'ai alors senti qu'un minuscule point, un grain tout au plus, s'était formé dans le ventre maternel. Je ressentais fortement un lien avec ce grain. Ce petit point, c'était moi. Alors une grande joie m'a envahi. La sensation d'être dans un tunnel sombre s'estompa. Je restais longtemps auprès de mes parents, endormi et calme, ignorant alors que leur premier enfant venait d'être conçu. Puis je les quittai, revenant ici. J'étais sous le choc de cet instant. J'avais besoin d'un repos. Je savais que mon retour à la Terre était engagé. J'étais dorénavant à bord du train de retour. J'imagine que tu n'habites pas encore ce corps.
Non, du moins pas en permanence.
À tous les jours, je retourne me blottir auprès de ce grain qui grossit au fond de la caverne maternelle. J'y ressens tout l'amour de ma mère. La chaleur et la douceur sont très perceptibles. C'est très réconfortant.
Quand commenceras-tu à vraiment l'habiter?
Lorsque le cœur du fœtus pourra être perçu par les médecins, alors je l'habiterai. Mais encore là, je me retirerai parfois sans jamais en être très loin. Selon mes guides, ce n'est qu'au 5e ou 6e mois que l'intégration s'accentue véritablement et se complète dans certains cas.
Et en attendant, comment te sens-tu?
J'ai des sentiments partagés. Je suis heureuse, bien sûr. Parfois, je me sens fébrile. L'incarnation est là, déjà enclenchée, et en même temps, les prochains mois m'apparaissent si longs. Je suis au point de non-retour pour moi. Le fœtus est bien relié au ventre de ma mère, et mes guides veillent sur son développement. Et puis, je me sens si reconnaissante envers ma mère, qui me nourrit de sa propre substance.
Captes-tu ce que tes parents ressentent?
Oui, particulièrement au niveau de ma mère. Mais tout ceci est si nouveau, tant pour eux que pour moi. Ils viennent à peine de savoir qu'ils sont enfantés. Mais déjà, ma mère caresse son ventre, espérant le voir grossir. Je la sens attentive et protectrice. Ses systèmes métaboliques, hormonaux et énergétiques commencent déjà à se transformer, ce qui lui cause de la fatigue. Elle se repose plus qu'auparavant, elle qui est si active.
Et ton père?
C'est différent. Je ne me sens pas une proximité similaire à celle que je vis avec ma mère. Il ne me parle pas comme elle le fait, et je capte moins bien ses pensées et ses états d'âme. Je sens qu'il doute parfois de ma présence. Je sais qu'il voulait un garçon. Déjà, je sais qu'il aura une déception à ma naissance.
Mais au moins il aura un enfant, ce qu'il souhaitait, non?
Oui, tout à fait. Mes parents désiraient vraiment avoir des enfants. D'ailleurs, lorsque ma mère a su sa condition, elle a explosé de joie. Je l'ai très bien ressenti, comme une vague qui m'a porté. Une lumière l'entoure depuis. Je sais aussi qu'ils pensaient à l'adoption, car ils espéraient un enfant depuis longtemps. Alors tu vois, j'étais désiré, comme on dit sur la terre. C'était une priorité pour moi. Je ne suis pas toujours né dans de telles conditions, soupira-t-elle.
Quel sera le sexe de ton corps?
J'habiterai un corps féminin.
Était-ce important pour toi?
Oui, très important, m'avoua-t-elle. Simplement parce que je souhaite être mère. Dans ma quête d'amour, je veux avoir des enfants et les aimer inconditionnellement.
La maternité, intervint Marie-Josée, est sans doute l'une des meilleures avenues pour exprimer l'amour total et inconditionnel.
Étant moi-même mère, je n'eus aucun mal à approuver l'observation de Marie-Josée. Je voulus poursuivre avec Rose-Hélène.
Dans quel pays reviens-tu?
Je naîtrai en Chine. C'est là que je pousserai mon premier cri. Je ne serai pas chinoise pour autant. Mon père est fortuné. Lui et ma mère auront d'autres enfants. Quant à moi, le seul chinois m'offrira les conditions idéales pour accomplir ce que j'ai planifié. La condition féminine sera l'une des luttes que j'y mènerai. J'aurais pu, reprit-elle après une légère pause, prendre vie sur un autre continent, l'Amérique entre autres. Au fond, la priorité était l'amour d'une mère avant l'endroit de naissance. Sur ces paroles, Rose-Hélène se leva et nous salua en m'informant qu'elle devait nous quitter. Elle s'éloigna gracieusement. Silencieuse, Marie-Josée me regardait avec douceur, mais ce regard me fit comprendre qu'il était temps de quitter à mon tour.
Une dernière question avant de partir.
Vas-y, accepta de bonne grâce Marie-Josée.
Rose-Hélène est-elle en harmonie avec le fœtus qui se développe?
Oui, répondit-elle. Le malaise que tu perçois provient des interrogations qu'elle se pose déjà concernant ses choix. Elle est inquiète. Elle ne doute pas de sa mère, mais elle se questionne au sujet des blessures à régler avec son père. Elle appréhende trop les épreuves qu'elle aura à traverser. Le plus tôt elle les oubliera, mieux elle s'en portera. Pour l'instant, tout est conforme au plan prévu. Quant au déroulement futur, il dépendra beaucoup de tous les intervenants. Maintenant, poursuivit-elle, il est temps pour toi de retourner à ton monde. Nous nous reverrons bientôt.
Au revoir, tante Marie, à bientôt, je t'aime.
Je n'eus pas le temps de lui répondre que déjà le voyage à rebours débutait. Je réintégrai rapidement mon corps et, épuisé, ma conscience se dissipa dans les brumes du sommeil.
Les jours suivants, je repensais souvent à Rose-Hélène.
Je me demandais si elle craignait la naissance autant que nous, sur la terre, nous craignons la mort. J'étais impatiente de la revoir. Un soir, je me couchais tôt et rapidement. Je me retrouvais dans un état second, hors de mon corps. Tout s'accéléra. Je survolais les campagnes, les montagnes, les mers. Je n'arrivais pas à me le détacher de la terre comme je le fais habituellement lors de mes voyages astraux. Je compris soudainement pourquoi, en voyant le continent asiatique sous moi. Je survolais la Chine, sans doute attiré par l'énergie de Rosalène qui s'y établissait lentement mais sûrement. Et c'est là, dans l'astral du pays chinois, que je retrouvais Marie-Josée et Rosalène, invisibles pour les humains, mais pourtant si lumineuses et réelles à mes yeux de voyageuses de l'astral. Marie-Josée sentit ma présence, contrairement à Rosalène. Je perçus leur entretien. Les réponses à mes questions me seraient servies sur un plateau d'argent. « Crains-tu de naître ?» lui demanda Marie-Josée. « Pas vraiment, du moins pas encore, » répondit Rosalène. « Même si je suis née plusieurs fois déjà, je ne sais trop ce qui m'attend. Parfois je me demande si je vais souffrir. La naissance est une épreuve, tant pour la mère que pour le fœtus, » mentionna Marie-Josée. « C'est une épreuve initiatique, tout comme la mort. Garde en ton âme qu'une joie intense suivra les douleurs et l'angoisse. Sois patiente et prête à participer à la poussée qui te conduira à ton premier souffle. Le froid que tu ressentiras tranchera avec la chaleur du ventre maternel. » Mais des bras t'accueilleront. Les souvenirs des premières caresses maternelles resteront à jamais gravés en ton âme. Pendant longtemps, tu dépendras de tes parents. L'abandon et la confiance sont exigés de toutes les âmes qui naissent. Tu n'auras plus de souvenirs de nos conversations, de ces lieux, de tes vies passées, de ton plan de vie. Que des impressions te resteront. Je comprends. Je sens d'ailleurs qu'une seule réalité se pointe, ma future vie. Mon passé a déjà commencé à s'éloigner de moi. Le temps me semble parfois suspendu. Cela est dans l'ordre des choses, la rassura Marie-Josée. Avant la conception du fœtus, tu vivais hors du temps, dans l'éternel présent. Le temps n'était pas une réalité pour ton âme. Mais depuis la conception, le temps te prend lentement dans ses filets. Tu es entre deux mondes, d'où ta perception du temps suspendu. Tout cela se dissipera sous peu. Garde confiance. Dieu, tes guides, tes parents et des âmes amies, dont tu ignores encore l'existence, seront toujours avec toi. Tu n'es pas seul, tu ne le seras jamais. Grave cela au plus profond de ton âme. Rosalène sourit à Marie-Josée en la remerciant de ses conseils et de ses encouragements. Aussi longtemps que je n'aurai pas les deux pieds sur la terre, j'aurai besoin d'être rassurée, lui dit-elle. Et même après, ajouta Marie-Josée. Marie-Josée se tourna vers moi et Rosalène prit alors conscience de ma présence. « Marie, me dit-elle en s'approchant, souhaite-moi bonne chance et prie pour moi. Pour l'instant, tu es la seule sur la terre à savoir mon retour imminent à la vie physique. Et une pensée pour moi. » Avec joie, Rosalène, je te remercie de ton partage si instructif. Je te souhaite de réussir cette prochaine incarnation. Au revoir. » Marie-Josée me salua à son tour de son regard doux et de son sourire radieux. Puis, elle et Rosalène furent enveloppées d'une lumière tournoyante et disparurent. La lumière s'estompa. J'errai encore un peu au-dessus de la Chine. Puis mon corps physique me rappela vers lui et m'attira dans ma chambre en quelques secondes. Juste avant de retomber dans le sommeil, j'eus une dernière pensée pour Rosalène. Ainsi se terminait ma première rencontre avec une âme en processus de retour. Il me tardait maintenant de poursuivre auprès d'une autre âme. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode d'une série de 9. 9 récits d'incarnation d'âme, extraits de l'ouvrage « Retour à la Terre » de Marie Bolduc, publié aux éditions du Dauphin Blanc. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous invite aussi à aller visiter mon blog « Au-delà de mourir » ainsi que ma chaîne YouTube du même nom. Salut !